Chapitre 6. Le vif et l'art. Ménestrels et scribes itinérants occupent une place à part dans la société des six duchés. Ce sont les dépositaires de la connaissance, non seulement de leur discipline propre, mais de bien davantage encore. Les ménestrels préservent l'histoire du royaume, à la fois l'histoire générale qui l'a façonnée et les histoires particulières des petites villes, et même des familles qui les composent. Certes, le rêve de tout ménestrel est d'assister à quelque événement d'importance et de pouvoir ainsi devenir l'auteur d'une nouvelle saga, mais leur véritable rôle, celui qui perdure toujours, est d'être les témoins des petits faits qui constituent le tissu de la vie. En cas de litige à propos des limites d'une propriété, de droits de lignage ou même d'une promesse faite longtemps auparavant, on demande aux ménestrels de se rappeler des détails que d'autres peuvent avoir oubliés. Et ayant leur rôle sans les supplanter, les scribes itinérants fournissent, contre rétribution, des documents écrits attestant d'un mariage, d'une naissance, du changement de main d'une terre, d'héritage reçu ou de dot promise. Ces documents peuvent être très complexes, car chaque partie concernée doit être identifiée sans possibilité d'erreur, non seulement par le nom et la profession, mais par la lignée, la géographie et l'aspect. Très souvent, on fait alors appel à un ménestrel pour apposer sa marque de témoin sur ce qu'a écrit le scribe. Et pour cette raison, il n'est pas rare de les voir voyager de conserve, ni de rencontrer des individus exerçant les deux métiers à la fois. Ménestrels et scribes sont par tradition bien reçus dans les maisons nobles, où ils trouvent leur quartier d'hiver, ainsi que nourriture et confort pour leurs vieux jours. Nul seigneur ne tient à laisser un mauvais souvenir dans les dits des ménestrels et des scribes, ou pire encore, ne pas laisser de souvenir du tout. On apprend aux enfants que la générosité envers eux fait partie de la simple courtoisie. Et l'on se sait en présence d'un grippe-sous lorsqu'on se trouve à la table d'un château sans ménestrel. L'après-midi suivant, je fis mes adieux aux musiciens à la porte de l'auberge d'un petit bourg de piètre allure nommé Corvecol. Ou plutôt, je fis mes adieux à Josh. Miel, elle, pénétra dans l'établissement sans un regard en arrière. Quant à Fifre, elle me regarda mais d'un air si intrigué que je ne pus rien y déchiffrer, et elle suivit Miel. Josh et moi restâmes seuls dans la rue. Nous étions arrivés côte à côte, et sa main reposait toujours sur mon épaule. « Attention au seuil, » lui dis-je à mi-voix. Il me remercia d'un hochement de tête.
« Eh bien, ça va faire du bien de manger chaud, » fit-il en désignant l'auberge du Menton.
Je secouai la tête, puis m'exprimai à voix haute. « Merci, mais je n'entre pas avec vous. » Je continue ma route.
« Si vite ? Allons, Cobb, venez au moins boire une chope et manger un morceau avec nous. Je sais que Miel est difficile à supporter parfois, mais n'allez pas croire qu'elle parle en notre nom à tous. »
Ce n'est pas ça. J'ai quelque chose à faire absolument. Quelque chose que je remets depuis très longtemps. Hier, je me suis rendu compte que je ne connaîtrais pas la paix tant que je n'aurais pas accompli cette tâche. Josh poussa un profond soupir.
C'était une bien triste journée hier. Je ne me fondrais pas sur un jour pareil pour prendre une décision de cette importance.
Il tourna ses yeux vides vers moi.
J'ignore de quoi il s'agit, Cobb. Mais je pense que cela s'arrangera avec le temps. Le temps arrange la plupart des choses, vous savez.
Certaines, oui, marmonnai-je d'un ton distrait. D'autres ne s'améliorent que si on les répare d'une façon ou d'une autre. Il tendit la main.
Eh bien, bonne chance. Au moins, cette main de guerrier a une épée à tenir maintenant. Cela ne peut vous porter malchance.
La porte est là, lui dis-je en l'ouvrant devant lui. « Bonne chance à vous aussi. » Ajoutai-je comme il passait devant moi et refermai le bâton derrière lui. Je repartis dans la rue avec l'impression de m'être débarrassé d'un fardeau. J'étais libre à nouveau et j'avais bien l'intention de ne pas recommencer à m'encombrer de sitôt. « J'arrive, » dis-je à Hugh de nuit. « Ce soir, nous chasserons.
Je t'attends !»
Je remontai mon baluchon sur mon épaule, changeai de prise sur mon bâton et descendis la rue. Rien ne m'intéressait à Corvecol. Pourtant, les habitudes ont la vie dure, et mes pas m'entraînèrent sur la place du marché. Je tendis l'oreille aux grommellements et aux plaintes des vendeurs et des chalands. Les clients demandaient pourquoi les prix étaient si élevés. Les marchands répondaient que les échanges avec Laval étaient rares, si bien que les denrées qui remontaient jusqu'à Corvecol étaient chères. Les prix étaient encore pires en amont, assurait-il. Outre ceux qui déploraient la cherté des articles, certains venaient au marché chercher ce qui ne s'y trouvait pas. Ne remontait plus le fleuve, non seulement le poisson de l'océan et le solide bois de serre, mais aussi, comme Imbre l'avait prédit, les soieries, les eaux de vie, les splendides pierres précieuses de Terrilleville. Plus rien n'arrivait des duchés côtiers, ni des pays au-delà. En essayant de couper les voies commerciales du royaume des montagnes, Royal privait également les marchands de Corvecol de l'ambre, des fourrures et des autres biens des montagnes. Naguère ville de commerce, Corvecol stagnait désormais, asphyxié par son propre surplus de marchandises, sans rien pour les échanger. Un ivrogne paraissait savoir à qui reprocher la situation. Il zigzaguait dans le marché d'un pas traînant, se cognait dans les étals et piétinait les nattes posées à même le pavé des vendeurs les moins fortunés. Hirsute, sa chevelure noire lui descendait jusqu'aux épaules et se fondait à sa barbe. Il chantait, ou plus exactement il beuglait, car il avait la voix plus puissante qu'harmonieuse. Le peu de mélodie que je parvenais à distinguer était insuffisant pour la fixer dans ma mémoire. Et il massacrait les strophes d'origine de la chanson. Mais le sens général de sa rengaine restait clair. Quand le roi subtil gouvernait les six duchés, l'or roulait dans le fleuve. Mais à présent que Royal portait la couronne, les côtes ruisselaient de sang. Il entama une seconde strophe, où il déclarait qu'il valait mieux payer des impôts pour combattre les pirates rouges que les verser à un roi qui ne songeait qu'à se dissimuler. Mais il fut interrompu par l'arrivée de la garde municipale. Je m'attendais à ce que les deux soldats arrêtent l'ivrogne et l'obligent à payer ce qu'il avait cassé. Mais le silence qui s'abattit sur le marché à leur apparition aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Tout commerce, c'est ça. Les gens s'éclipsèrent ou se reculèrent contre les étals pour leur céder le passage. Tous les yeux étaient fixés sur eux. Ils fondirent sur l'ivrogne, et je me trouvais dans la foule silencieuse quand ils s'emparèrent de lui. Les yeux exorbités, l'homme les dévisagea d'un air atterré, et le regard suppliant qu'il promena ensuite sur les badauds alentour était effrayant d'intensité. Un des gardes ramena en arrière son poing ganté et le lui projeta dans le ventre. L'ivrogne semblait un homme robuste, devenu pansu avec l'âge. Un individu moins résistant se fut écroulé. Lui se plia en deux. Son soufre lui échappa dans un sifflement, puis tout à coup, il régurgita un flot de bière surie. Les gardes s'écartèrent d'un air dégoûté, et l'un d'eux bouscula l'ivrogne qui perdit l'équilibre. Il s'effondra sur un étal, et deux paniers d'œufs allèrent s'écraser par terre. Le marchand garda le silence et se contenta de reculer comme s'il souhaitait passer inaperçu. Les deux gardes avancèrent à nouveau sur le malheureux poivreau. Le premier arrivé le saisit par le devant de la chemise, le remit debout sans douceur, et lui envoya un coup en plein visage. L'homme fut projeté en arrière dans les bras du second garde. Celui-ci le ceintura, et son compagnon enfonça de nouveau son poing dans l'estomac de la victime. Cette fois, l'ivrogne tomba à genoux et le garde qui le tenait le jeta au sol, d'un coup de pied désinvolte. Sans m'en rendre compte, je m'étais avancé pour m'interposer quand une main me prit par l'épaule. Je baissai les yeux sur le visage sec de la vieille femme décharnée qui me retenait.
« Ne les énervez pas, » chuchota-t-elle. « Il en sera quitte pour une rossée si personne ne les met en colère. Si vous intervenez, ils vont le tuer, ou pire, l'emmener au cirque du roi. »
Je plantai mes yeux dans ses yeux fatigués, et elle détourna le regard comme si elle avait honte. Mais elle n'ôta pas la main de mon épaule. Alors, à son imitation, je refusais d'assister à la scène, et je m'efforçais de ne plus entendre les impacts, les grognements et les cris étranglés de l'homme qu'on battait. La journée était chaude et les gardes portaient des côtes de mailles plus épaisses que celles des soldats habituels. C'est peut-être ce qui sauva l'ivrogne. Personne n'appréciait de transpirer sous une armure. Je reportai mon regard sur l'homme à l'instant où l'un des gardes détachait sa bourse d'un coup de couteau, la soupesait, puis l'empochait. Son camarade parcourut la foule des yeux et annonça
« Rolf le Noir a été puni et a payé une amende pour acte de trahison, s'être moqué du roi. Que ce soit un exemple pour tous !»
Ils laissèrent l'homme étendu dans la terre et les détritus de la place du marché et reprirent leur ronde. L'un d'eux jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, mais nul ne fit le moindre geste, tant qu'ils n'eurent pas passé le coin de la rue. Alors, peu à peu, le marché revint à la vie. La vieille femme enleva sa main de mon épaule et se retourna pour continuer à marchander des choux. Le marchand d'œufs fit le tour de son étal pour ramasser les rares œufs intacts et ses paniers gluants. Personne ne regarda l'homme à terre. Je restai un moment immobile en attendant que s'apaise le tremblement glacé qui m'agitait les intérieurs. J'aurais voulu savoir pourquoi les gardes municipaux se souciaient tant de la chanson d'un ivrogne, mais chacun refusait de croiser mon regard interrogateur. Je trouvai soudain encore moins d'attrait à Corvecol et à ses habitants. Je remontai mon baluchon sur mon épaule et me dirigeai vers la sortie du bourg, mais comme je passais près de l'ivrogne gémissant, sa douleur vint clapoter contre moi. Plus je m'approchais, plus elle devenait distincte, un peu comme si on m'enfonçait de force la main dans un feu. L'homme leva le visage vers moi. De la terre s'était mêlée au sang et aux vomissures qui le maculaient. J'essayais de passer mon chemin.
Aide-le.
C'est ainsi que mon esprit traduisit la prière mentale que je perçus tout à coup. Je m'arrêtai, comme si j'avais reçu un coup de poignard, au bord du vertige. Le message ne venait pas d'œil de nuit. L'ivrogne glissa une main sous son flanc et se souleva. Il croisa mon regard, et je lus dans ses yeux une détresse et une supplication sourde. Je connaissais ce regard. C'était celui d'un animal qui souffre.
« Il faudrait peut-être l'aider, »
fit Œil de Nuit, d'un ton hésitant.
« Chut !»
répondis-je.
« S'il te plaît, aide-le. »
La prière s'était faite plus pressante et plus forte. « Le lignage en appelle au lignage !» La voix s'exprimait plus clairement, non par mots mais par images, dont le vif me permettait de décrypter le sens. On m'imposait une obligation clanique.
« Sont-ils de la même meute que nous ?»
demanda Œil de Nuit étonné. Comme il sentait parfaitement mon propre désarroi, je m'abstins de répondre. Rolf Lenoir avait réussi à glisser son autre main sous sa poitrine, et il se redressa sur un genou, puis me tendit la main sans rien dire. Je lui saisis l'avant-bras et l'aidai lentement à se relever. Une fois debout, il chancela légèrement. Sans le lâcher, je lui laissai le temps de retrouver son équilibre en se retenant à moi. Sans un mot, je lui offris mon bâton de marche. Il le prit, mais ne desserra pas sa prise sur mon bras, et nous quittâmes la place à pas lents. L'ivrogne, lourdement appuyé sur moi, suivi par de nombreux regards curieux, trop à mon goût. Dans les rues, les gens levaient sur nous des yeux surpris, puis les détournaient vivement. L'homme se taisait toujours. Je m'attendais à ce qu'il m'indique une direction ou une maison, mais il gardait le silence. À la sortie de la bourgade, la route se mit à descendre en lacets vers le fleuve. Par une trouée dans les arbres, je vis le reflet scintillant du soleil sur l'eau. Un haut fond prolongeait la berge herbue encadrée d'un bois de saule. Quelques personnes quittaient l'endroit avec des paniers pleins de linge mouillé. D'une petite saccade au bras, Rolf Lenoir me fit comprendre qu'il désirait se rendre au bord du fleuve. Là, il se mit à genoux, puis se pencha en avant pour se plonger non seulement le visage, mais la tête tout entière dans l'eau jusqu'au cou. Il se redressa, se frotta la figure avec les mains et replongea aussitôt. La seconde fois qu'il sortit de l'eau, il secoua vigoureusement la tête comme un chien qui s'ébroue en faisant voler des gouttes dans toutes les directions. Il s'assit sur les talons et leva vers moi un regard brouillé.
« Je bois trop, quand je vais en ville, »
déclara-t-il d'une voix sourde. J'acquiesçai. « Ça va aller maintenant ?» Il hocha la tête. Je le vis se tâter l'intérieur de la bouche, du bout de la langue à la recherche de coupures et de dents ébranlées. Le souvenir d'anciennes souffrances roulait sans cesse au fond de moi. Je n'avais qu'une hâte, m'éloigner de tout ce qui pouvait me les rappeler. « Alors bonne chance, » dis-je. J'allais me placer en amont de lui pour boire et remplir mon outre dans l'eau du fleuve. Puis je remis mon baluchon à l'épaule et m'apprêtai à reprendre mon chemin. À cet instant, un picotement de vif me fit tourner la tête vers les bois. Une souche d'arbre remua et se transforma soudain en ours qui se dressait sur ses pattes postérieures. Il huma l'air, puis se laissa retomber sur les pattes de devant, et se dirigea vers nous d'une démarche lourde.
Rolf, murmurai-je en reculant lentement. Rolf, il y a un ours.
C'est mon ours, répondit-il sur le même ton. Vous n'avez rien à craindre d'elle.
Pétrifié, je la regardais sortir des arbres et descendre la berge herbue. En arrivant auprès de Rolf, elle poussa un cri bas qui évoquait étrangement le meuglement d'une vache appelant son petit. Puis, elle frotta sa grosse tête contre lui. Il se redressa en prenant appui sur l'épaule tombante de l'animal. Je sentais qu'ils communiquaient, mais le sens de leur échange m'échappait complètement. L'ours leva la tête et planta ses yeux dans les miens.
« Ignage, » me dit-elle, en guise de salut.
Ses petits yeux étaient profondément enfoncés au-dessus de son mufle. Le soleil luit sur son pelage ondulant quand elle se mit en marche vers moi, en compagnie de l'homme. Je ne bougeais pas. Quand ils furent près de moi, elle appuya fermement son museau contre ma poitrine et se mit à renifler à longues inspirations.
« Mon frère !»
demanda Œil de Nuit avec inquiétude. « Je crois qu'il n'y a rien à redouter. » J'osais à peine respirer. Jamais je ne m'étais trouvé aussi près d'un ours vivant. Elle avait une tête de la taille d'un seau d'un boisseau, et son souffle brûlant sentait le poisson. Au bout d'un moment, elle s'écarta de moi en émettant des « du fond de la gorge, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle avait senti sur moi. Elle s'assit et se mit à inspirer la bouche ouverte, de l'air de goûter mon odeur. Sa tête oscilla lentement de gauche à droite, puis l'ours parut prendre une décision. Elle se remit à quatre pattes et s'éloigna lourdement.
« Venez, » fit Rolf, en me faisant signe de le suivre.
Ils se mirent en route en direction des bois. Il ajouta par-dessus son épaule,
« Nous avons des vivres à partager. Le loup est le bienvenu lui aussi. »
Après une brève hésitation, je leur emboîtai le pas.
« Est-ce prudent ?»
Je sentais qu'Œil de Nuit n'était pas loin et se dirigeait vers moi en se faufilant aussi vite que possible entre les arbres du versant d'une colline. Je dois comprendre ce qu'ils sont. Sont-ils comme nous ? Jamais je n'ai eu affaire à des êtres qui nous ressemblaient. Petit rire moqueur de la part d'Œil de Nuit.
Tu as été élevé par cœur de la meute. Ils nous ressemblent davantage que ces deux-là. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'approcher d'une ours, ni de l'homme qui pense avec l'ours.
Je veux les connaître mieux, répliquai-je. Comment a-t-elle fait pour me percevoir? Comment a-t-elle réussi à me parler? Pourtant, malgré ma curiosité, je gardais mes distances avec l'étrange duo. L'homme et l'ours marchaient devant moi au milieu des saules qui bordaient le fleuve afin d'éviter la route. À l'endroit où la forêt la traversait pour se poursuivre, plus épaisse, de l'autre côté, ils franchirent la piste en pressant le pas. Je les imitais. Dans l'ombre profonde des grands arbres, nous parvînmes rapidement à une sente qui coupait obliquement la pente d'une colline. Je sentis la présence proche d'Œil de Nuit avant qu'il apparût soudain près de moi. Il haletait d'avoir couru. Mon cœur se serra en le voyant se déplacer sur trois pattes. Il avait trop souvent été blessé à cause de moi. De quel droit le lui imposais-je?
C'est moins grave que ce qui se passe en ce moment.
Il n'appréciait pas de marcher derrière moi, mais la sente était trop étroite pour nous deux. Je le laissais monter à ma hauteur et m'écartais sur le bord du chemin, en évitant branches et troncs, sans quitter nos guides des yeux. L'ours nous mettait mal à l'aise l'un et l'autre. D'un revers, elle pouvait blesser ou tuer, et ma maigre expérience de ces animaux n'indiquait pas chez eux un tempérament équanime. Marcher dans son odeur hérissait le poil d'Œil de Nuit et me faisait courir des picotements sur la peau. Au bout de quelque temps, nous parvînmes à une chaumette collée à une colline, faite de pierres et de rondins. De la mousse et de la terre colmataient les interstices des murs et de l'herbe poussait sur le toit en bois, émaillé de chiens-dents et même de petits buissons. La porte, extraordinairement large, était grande ouverte. L'homme et l'ours la franchirent. Après un instant d'hésitation, je m'approchai prudemment pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Œil de Nuit resta où il se trouvait. le poil à demi hérissé, les oreilles dressées et tournées vers l'avant. Rolf Lenoir revint à la porte.
« Entrez donc, soyez les bienvenus !»
dit-il. Voyant mon indécision, il ajouta
« Le lignage n'attaque pas le lignage !»
J'entrai à pas lents. Une table basse en pierre occupait le centre de la pièce, flanquée d'un banc de part et d'autre, tandis qu'un âtre se dressait dans un coin, entre deux grands fauteuils confortables. Une porte menait dans une petite chambre. La chaumière sentait la tanière d'ours, une odeur de terre un peu rance. Dans un angle, gisait un amoncellement d'eau, et les murs à cet endroit portaient des traces de griffes. Une femme reposait un balai avec lequel elle venait de nettoyer le sol. Elle était vêtue de brun, et ses courts cheveux châtains luisaient plaqués sur son crâne, comme la cupule d'un gland de chêne. Elle tourna vivement la tête vers moi et braqua sur moi des yeux marrons qui ne sillaient pas. Rolf me désigna d'un geste.
« Voici les hôtes dont je t'ai parlé, Fragon, »
annonça-t-il. « Je vous remercie de votre hospitalité, » dis-je. Elle parut surprise.
« Le lignage fait toujours bon accueil au lignage, » déclara-t-elle.
Je fis face à la noirceur scintillante du regard de Rolf. « Je n'ai jamais entendu parler de ce lignage, » dis-je.
« Pourtant, vous savez ce que c'est. »
Il me sourit. Et j'eus l'impression de voir un ours sourire. Il avait toute l'attitude de l'animal, la démarche lourde et chaloupée, la façon d'osciller de la tête de droite et de gauche, de baisser le menton et regarder vers le bas comme si un museau gênait sa vision. Derrière lui, sa compagne hocha lentement la tête. Elle la leva soudain pour échanger un regard avec quelqu'un. Je suivis la direction de son coup d'œil et aperçus un petit faucon perché sur une poutre transversale. Les yeux de l'oiseau me vrillaient. Les solives étaient striées des dégoulinures blanches de ses fientes. « C'est le vif, voulez-vous dire ? » demandai-je.
« Non, ça, c'est le nom que lui donnent ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui le méprisent. Nous qui sommes du lignage, ne l'appelons pas ainsi. »
Il se tourna vers un buffet appuyé à la solide paroi et entreprit d'en sortir de quoi manger. De longues et épaisses tranches de saumon fumé, un pain aux noix et aux fruits. L'ours se dressa sur ses pattes arrière, puis se laissa retomber en humant l'air avec une mine appréciatrice. Sa tête pivota sur le côté et elle happa un filet de saumon sur la table. Entre ses mâchoires, la tranche paraissait minuscule. Elle regagna son coin et attaqua son repas, dos à nous. Sans bruit, la femme s'était installée dans un fauteuil d'où elle pouvait surveiller toute la pièce. Quand je la regardais, elle sourit en me faisant signe de m'approcher de la table. Après quoi, elle retrouva son immobilité vigilante. L'eau me vint à la bouche à la vue des aliments. Je n'avais pas mangé à ma faim depuis des jours, et je n'avais presque rien avalé les deux derniers. Un faible gémissement à l'extérieur de la chaumière me rappela qu'œil de nuit n'était pas mieux loti que moi.
« Pas de fromage, pas de beurre !»
m'avertit Rolf Lenoir, d'un ton solennel.
Les gardes de la ville ont pris tout l'argent de mes ventes avant que j'aie eu le temps d'en acheter. Mais il y a du poisson et du pain en abondance, et du gâteau de miel pour le pain. Prenez ce qui vous fait envie.
Presque involontairement, mon regard se dirigea vers la porte.
Tous les deux, reprit-il. Chez ceux du lignage, deux ne font qu'un, toujours, et sont traités comme tels.
Grésil et moi, « vous souhaitons aussi la bienvenue, » intervint la femme à mi-voix. « Je m'appelle Fragon. »
D'un hochement de tête, je la remerciai de son accueil, puis je tendis mon esprit vers le loup. « Œil de nuit, tu veux venir ?»«
Pas plus loin que la porte. »
Un instant plus tard, une ombre grise passa furtivement devant l'entrée. Je sentis le loup faire le tour de la bâtisse, en relevant toutes les odeurs, où dominait un peu partout celle de l'ours. Il apparut de nouveau devant la porte, jeta un bref coup d'œil à l'intérieur, puis entama un nouveau tour de la chaumière. Il découvrit la carcasse à demi dévorée d'un cerf, recouverte de feuilles et de terre, à la façon typique des ours. Il n'était pas nécessaire de lui recommander de ne pas y toucher. Enfin, il revint à la porte et s'assit devant le seuil, le regard alerte, les oreilles dressées.
« Apportez-lui à manger s'il ne souhaite pas entrer. » me dit Rolf.
Ici, on n'oblige personne à aller contre son instinct.
« Merci, » répondis-je, d'un ton un peu guindé, car j'ignorais les manières de la maison. Je pris une tranche de saumon et la jetai à Œil de Nuit qui l'attrapa au vol. Il demeura un moment sans bouger, le poisson entre les mâchoires. Il ne lui était pas possible de rester parfaitement sur ses gardes tout en mangeant. De longs filets de salive se mirent à couler de sa gueule. « Mange, » lui conseillai-je. « Je ne crois pas que ces gens nous veuillent du mal. Je n'eus pas besoin de le lui dire deux fois. » Il laissa tomber la tranche de poisson, la maintint par terre d'une patte, et en arracha une large bouchée qu'il avala presque tout rond. Le voir manger réveilla en moi une faim que je m'efforçais de réprimer. Me détournant de lui, je m'aperçus que Rolf le Noir m'avait coupé une épaisse tartine de pain qu'il avait enduite de miel, et qu'il était en train de se servir une grosse chope d'hydromel. La mienne se trouvait déjà à côté de mon assiette.
« Mangez, ne m'attendez pas !» me dit-il,
et la femme sourit quand je lui adressai un regard interrogateur.
« Allez-y, je vous en prie, »
murmura-t-elle. Elle s'approcha de la table et prit une assiette pour elle-même, mais avec seulement une portion frugale de poisson et un petit morceau de pain. Elle se servait manifestement pour me mettre à l'aise plus que par véritable appétit.
« Mangez bien, » reprit-elle,
et elle ajouta.
« Nous percevons votre faim, vous savez. »
Elle reprit place dans son fauteuil près de la cheminée, son assiette entre les mains. J'étais trop heureux de lui obéir. Je dévorais à la façon d'Œil de Nuit. Il en était à sa troisième tranche de saumon. J'en avais mangé autant de pain et j'avais entamé mon second morceau de poisson quand je me rappelais la présence de mon hôte. Rolf remplit ma chope en disant
« Autrefois, j'ai essayé d'élever une chèvre pour avoir du lait et du fromage. Mais elle n'a jamais pu se faire à Hilda. La pauvre bête était toujours tellement inquiète qu'elle retenait son lait. Alors, nous buvons de l'hydromel. Avec le nez qu'a Hilda pour le miel, c'est une boisson dont nous ne manquons jamais. »
« C'est excellent, » répondis-je. Je reposai ma chope, dont j'avais déjà bu un quart, et poussai un soupir. Je n'avais pas encore fini de manger, mais ma faim avait perdu son caractère d'urgence. Rolf le Noir prit une nouvelle tranche de poisson sur la table et la jeta d'un geste désinvolte à Hilda. Elle s'en saisit des pattes et de la gueule, puis nous tourna le dos pour la dévorer. Rolf répéta l'opération avec Œil de Nuit, qui avait renoncé à toute méfiance. Le loup bondit pour attraper le poisson, puis il se coucha, la tranche entre les pattes de devant, et tourna la tête pour en découper de grands morceaux à l'aide des molaires. Fragon, elle, ne touchait à son assiette que pour prélever de petites bandes de poissons séchés et les avaler en baissant la tête. Chaque fois que je la regardais, je trouvais ses yeux noirs et vifs posés sur moi, et je me retournais vers Hilda. « Comment vous êtes-vous débrouillé pour vous lier à une ours ?» demandai-je à Rolf, avant d'ajouter « S'il n'est pas grossier de ma part de vous poser la question. Je n'ai jamais parlé avec une personne liée à un animal, ou du moins, qui le reconnaisse. » Il se laissa aller contre le dossier de son fauteuil, les mains sur le ventre.
« Je ne le reconnais pas devant n'importe qui. J'imagine que vous avez perçu dès l'abord qui j'étais, de même que Hilda et moi avons toujours aussitôt conscience de la présence de membres du lignage dans les parages. Mais, pour répondre à votre question, ma mère était du lignage, et deux de ses enfants en ont hérité. » Elle l'a senti en nous, naturellement, et elle nous en a inculqué les fondements. Puis, quand j'en ai eu l'âge, une fois adulte, j'ai entrepris ma quête.
Je lui adressai un regard vide. Il secoua la tête avec un sourire vaguement apitoyé.
Je suis parti seul dans le vaste monde, à la recherche de mon compagnon animal. Certains cherchent dans les villes, d'autres dans les bois, quelques-uns même, m'a-t-on dit, sur la mer. Moi, c'était les bois qui m'attiraient. Alors, je me suis mis en route, les sens grand ouverts, sans rien avaler sinon de l'eau fraîche et les herbes qui avivent le lignage. Je suis arrivé ici même, et je me suis assis entre les racines d'un vieil arbre pour attendre. Et, au bout d'un certain temps, Hilda est venue à moi, en quête, comme moi. Nous nous sommes sondés mutuellement, nous avons trouvé la confiance l'un chez l'autre, et, ma foi, nous voici ensemble 7 ans plus tard.
Le regard qu'il posa sur Hilda était aussi empreint d'amour que s'il parlait de sa femme et de son enfant. Rechercher délibérément un être à qui se lier? Fis-je, perdu dans mes réflexions.
Je crois que c'est ce que tu as fait avec moi, et moi avec toi, même si nous ne savions ni l'un ni l'autre que nous étions en quête,
me dit Œil de Nuit. Et le jour où je l'avais arraché aux griffes du marchand d'animaux prit soudain une signification nouvelle. Pourtant, je dus lui répondre avec regret. Je ne pense pas. Je m'étais lié deux fois auparavant avec des chiens, et je connaissais trop bien la douleur qu'on éprouve à perdre de tels compagnons. J'avais résolu de ne plus jamais me lier.
Rolf me dévisageait d'un air incrédule, presque horrifié. « Vous vous étiez lié deux fois avant le loup, et vous avez perdu vos deux compagnons ?»
Il secoua la tête comme pour nier la réalité des faits.
« Même pour un premier lien, vous êtes très jeune. »
Je haussai les épaules. Je n'étais qu'un enfant quand Fouineau et moi nous sommes unis. Il m'a été enlevé par quelqu'un qui avait une certaine connaissance du lien et considérait que ce n'était bon ni pour le chien, ni pour moi. Plus tard, j'ai retrouvé Fouineau, mais il était à la fin de sa vie. Quant à l'autre chiot auquel je me suis lié, Rolf me regardait avec une révulsion aussi ardente que celle de Burik pour le vif, tandis que Fragon secouait la tête en silence.
« Vous vous êtes lié enfant ? Pardonnez-moi, mais c'est de la perversion. C'est comme si on mariait une petite fille à un homme fait. À cet âge, on n'est pas prêt à partager la vie d'une bête dans tous ses aspects. Tous les parents du lignage que je connais prennent grand soin de protéger leurs enfants de tels contacts. »
Une expression compatissante apparut sur ses traits.
« Néanmoins, votre compagnon de lien a dû souffrir mille morts d'être arraché à vous, mais celui qui vous l'a enlevé a bien agi, quelles qu'en aient été les raisons. »
Il m'observa de plus près.
« Je m'étonne que vous ayez survécu alors que vous ignoriez tous les principes du lignage. »
Là d'où je viens, on en parle rarement, et quand on en parle, on l'appelle le vif et c'est considéré comme une pratique honteuse.
Même vos parents tenaient de tels propos. Je sais bien ce qu'on pense généralement du lignage et les mensonges qu'on en dit, mais on ne les apprend pas de la bouche de ses propres parents, d'habitude. Au contraire, ils chérissent nos lignées et nous aident à trouver une bonne compagne le temps venu afin que notre sang ne s'affaiblisse pas.
J'observais tour à tour leur visage franc. Je n'ai pas connu mes parents. Même sans m'être présenté, j'avais du mal à prononcer ces mots. Ma mère m'a remis à la famille de mon père quand j'avais 6 ans, et mon père a choisi de ne pas rester auprès de moi. Cependant, j'ai l'impression que je tiens le lignage de ma mère. Je n'ai aucun souvenir d'elle ni de sa famille.
Vous aviez 6 ans, et vous ne vous en rappelez rien ? Elle vous a sûrement appris quelque chose avant de vous laisser partir, quelques rudiments pour vous protéger.
Je soupirai. Je n'ai aucun souvenir d'elle. Depuis longtemps, je m'étais lassé de m'entendre répéter que je devais obligatoirement me rappeler quelque chose, que la plupart des gens ont des souvenirs dès l'âge de 3 ans, voire avant. Du fond de la gorge, Rolf le Noir produisit un son entre le grondement et le soupir.
Enfin, quelqu'un vous a sûrement enseigné quelque chose.
Non, j'avais répondu sèchement, fatigué de la discussion. Je souhaitais y mettre fin. Aussi eus-je recours à la plus vieille tactique que je connusse pour détourner ceux qui posaient trop de questions sur mon compte. Parlez-moi de vous. Que vous a enseigné votre mère et comment ? Son sourire fit naître de fines rides au coin de ses yeux noirs, qui en parurent plus petits encore.
Il lui a fallu 20 ans. Pour me l'inculquer. Avez-vous 20 ans devant vous pour l'écouter ?
Devant mon expression, il ajouta :
Non, je sais que votre question ne visait qu'à relancer la conversation, mais je vous offre ce qui vous manque à ce que je vois. Restez quelque temps avec nous. Nous vous apprendrons à tous deux ce qu'il vous faut savoir, mais cela ne se fera pas en 1 heure, ni en 1 jour. Cela prendra des mois, peut-être des années.
De son coin, Fragon intervint soudain à mi-voix.
Nous pourrions aussi lui trouver une compagne. Il irait peut-être avec la fille d'Oli. Elle est plus vieille que lui, mais qui sait si elle ne l'assagirait pas ?
Un grand sourire détendit les traits de Rolf.
« Voilà bien les femmes. Il n'y a pas 5 minutes qu'elle vous connaît, et elle vous apparaît déjà pour le mariage. »
Fragon s'adressa à moi avec un sourire mince, mais chaleureux.
« Vita est liée à un corbeau. Vous chasseriez bien, tous les quatre. Restez parmi nous. Vous ferez sa connaissance, et elle vous plaira. Le lignage doit s'unir au lignage. »
« Refuse poliment, » me transmit aussitôt Œil de Nuit. « Partager la tanière d'homme est déjà désagréable, mais si tu commences à dormir avec des ours, tu vas puer tant que plus jamais nous ne pourrons chasser convenablement. Et puis, je n'ai aucune envie de partager mes proies avec un casse-pied de corbeau. »
Il se tut un instant.
« À moins qu'il ne connaisse une femme qui soit liée à une louve. »
Un sourire tiraillait la commissure des lèvres de Rolf le Noir.
J'avais l'impression qu'il avait capté davantage de notre échange qu'il ne le montrait, et j'en fis l'observation à Œil de Nuit.
« C'est là une des choses que je pourrais vous enseigner si vous décidez de rester, » fit Rolf. « Quand vous parlez entre vous tous les deux, pour quelqu'un du lignage, c'est comme si vous hurliez pour vous faire entendre par-dessus le vacarme d'une carriole de rémouleurs. Inutile d'être à ce point grand ouvert. Vous ne vous adressez qu'à un seul loup. « Pas à toute la communauté des loups. Non, c'est encore pire. Je crois qu'aucun mangeur de viande n'ignore le moindre de vos propos. Dites-moi, depuis combien de temps n'avez-vous pas croisé de grands carnivores ?»«
Des chiens m'ont pourchassé, il y a quelques nuits, » répondit Œil de Nuit.
« Les chiens défendent leur territoire, » fit Rolf. « Je parlais de carnivores sauvages. »
« Je ne crois pas en avoir vu un seul depuis que nous sommes liés, » reconnus-je à contre-cœur.
« Il vous évite aussi sûrement que les forgisés vous suivent, » déclara calmement Rolf le Noir.
Un frisson glacé me parcourut.
« Les forgisés ?
Mais ils n'ont apparemment aucun vif. Je suis incapable de les percevoir par le vif, seulement par la vue, l'odorat ou...
Pour vos sens du lignage, toutes les créatures émettent une chaleur qui signe leur parenté. » Toutes, sauf les forgisés. Est-ce exact ?
J'acquiesçais, mal à l'aise.
Ils l'ont perdu. J'ignore comment on les en dépouille, mais c'est ainsi qu'agit la forgisation. Et cela laisse un vide en eux. Voilà tout ce qu'on en connaît dans le lignage. Nous savons aussi que nous avons davantage de risques que les autres d'être suivis et assaillis par des forgisés, surtout si nous employons nos talents à l'étourdi. « Nul n'en connaît la raison avec certitude. Peut-être seuls les forgisés savent-ils ce qu'il en est, si tant est qu'ils sachent encore quoi que ce soit. Mais cela nous conforte dans l'idée que nous devons faire attention à nous et à l'usage de nos talents. »«
Vous voulez dire qu'Œil de Nuit et moi devons nous abstenir d'utiliser le vif ?»«
Je veux dire que vous devriez séjourner un moment parmi nous et prendre le temps de maîtriser les techniques du lignage, sans quoi vous risquez de vous retrouver mêlé à des combats comme celui d'hier. »
Il eut un petit sourire. « Je ne vous ai jamais parlé de cette attaque, » murmurai-je.
« Ce n'était pas nécessaire. Je suis sûr que tous les membres du lignage à des lieux à la ronde vous ont entendu vous battre. Tant que vous n'aurez pas appris à vous parler l'un à l'autre, « rien de ce qui passera entre vous ne restera véritablement entre vous. »
Il se tut, puis
« Vous n'avez pas trouvé curieux que des forgisés perdent leur temps à s'en prendre à un loup alors qu'ils n'avaient apparemment rien à y gagner. Ils s'intéressent à lui uniquement parce qu'il est lié à vous. »
Je lançai à Œil de Nuit un regard d'excuse. « Je vous remercie de votre proposition. » Mais nous avons une tâche à accomplir qui ne peut pas attendre. Nous devrions rencontrer de moins en moins de forgisés à mesure que nous cheminerons vers l'intérieur. Nous nous débrouillerons.
C'est probable. Les forgisés qui s'aventurent si loin dans les terres se font capturer par le roi. Cependant, s'ils en restent en liberté, ils seront attirés vers vous. Mais, même si vous ne tombez pas sur des forgisés, vous avez des chances de croiser le chemin des gardes royaux. Et ils s'intéressent de près aux adeptes du vif en ce moment. Dernièrement, beaucoup de membres du lignage ont été vendus au roi par leurs voisins et même leurs familles. Ils payent en bon or et il n'est pas très pointilleux sur les preuves de leur appartenance au lignage.
Il y a des années que nous n'avions pas connu une guerre aussi acharnée contre nous. »
Gêné, je détournai le regard. Je savais pertinemment d'où provenait la haine de Royal envers ceux qui avaient le vif, et son clan devait l'alimenter. La nausée me prit à l'idée des innocents vendus à Royal, afin qu'il assouvisse sur eux une vengeance qui ne concernait que moi. Je m'efforçais de dissimuler la fureur qui bouillonnait en moi. Hilda revint auprès de la table, examina ce qui s'y trouvait posé d'un air pensif, puis saisit entre ses pattes de devant le pot de gâteau de miel. Elle retourna dans son coin à pas prudents, s'assit, et entreprit de vider le récipient à coups de langue. Fragon ne me quittait pas des yeux. Son regard me demeurait indéchiffrable. Rolf Lenoir se gratta la barbe, fit une grimace en touchant une éraflure, et me fit un sourire lugubre.
« Je comprends votre désir de tuer Royal. Cependant, vous vous apercevrez que la tâche est plus ardue que vous ne l'imaginez. »
Je le regardais sans répondre, mais Œil de Nuit émit un léger grondement du fond de la gorge. Aussitôt, Hilda leva la tête et se laissa tomber à quatre pattes tandis que le pot de miel roulait à terre. D'un coup d'œil, Rolf la fit rasseoir, mais elle fixa sur Œil de Nuit et moi un regard menaçant. À ma connaissance, il n'y a rien de plus glaçant que de se faire regarder ainsi par un ours brun. Je restai immobile. Fragon se redressa dans son fauteuil, mais demeura calme. Dans la charpente, au-dessus de nos têtes, Grésil fit froufrouter son plumage.
« Si vous clabaudez vos projets et vos griefs à la pleine lune, ne vous étonnez pas que d'autres soient au courant. À mon avis, vous ne rencontrerez guère de membres du lignage acquis à la cause du roi royal, voire aucun. Beaucoup seraient même prêts à vous aider si vous le leur demandiez. Néanmoins, le plus sage reste de taire un tel plan. »
« Si j'en crois votre chanson de tout à l'heure, il me semble que vous partagez mes sentiments, » dis-je à mi-voix, « et je vous remercie de vos mises en garde. Mais par le passé, Œil de Nuit et moi avons déjà dû faire preuve de prudence quant à nos échanges. Maintenant que nous savons le danger d'être surpris, je pense que nous serons à même de l'éviter. J'aimerais vous poser une question. En quoi la garde municipale de Corvecol est-elle concernée par une chanson d'ivrogne qui se moque du roi ?» J'avais dû faire un effort pour prononcer le titre.
« En rien, s'il s'agit de citoyens de Corvecol, mais ce n'est plus le cas. » Ni là, ni dans aucune des villes de la route du fleuve. Ce sont des gardes royaux qui portent l'uniforme de la garde de Corvecol et qui sont payés par la ville, mais ce sont bien des soldats royaux. Il n'y avait pas deux mois que Royal avait accédé au trône qu'il passait ce décret, sous prétexte que la loi serait appliquée plus équitablement si les gardes municipaux étaient tous des soldats du roi chargés de faire respecter en priorité la loi des Six-Duchés. Eh bien, vous l'avez vu appliquer, c'est-à-dire que les gardes saisissent tout ce qu'ils peuvent sur le premier poivreau qui marche sur les pieds du roi. Et encore, ceux de Corvecol ne sont pas les pires, à ce que j'ai entendu. Il paraît qu'à Sablevire, un coupeur de bourse ou un voleur gagne facilement sa vie pour peu qu'il arrose les gardes. Les édiles de la ville n'ont pas la possibilité de révoquer les soldats assignés par le roi, et ils n'ont pas le droit non plus de leur adjoindre des hommes du cru.
C'était typique de Royal. Jusqu'où irait son obsession du pouvoir? Ferait-il surveiller ses espions par d'autres espions? À moins que ce ne fût déjà le cas. Tout cela n'augurait rien de bon pour l'ensemble des Six-Duchés. Rolf Lenoir interrompit mes réflexions.
« J'ai moi aussi une question que j'aimerais vous poser. »
« Je vous en prie, » répondis-je, tout en me réservant le droit de limiter ma franchise.
« Tard hier soir, après que vous en avez eu fini avec les forgisés, quelqu'un d'autre vous a attaqué. » Je n'ai pas réussi à percevoir son identité, mais votre loup vous a défendu, et je ne sais comment, il est allé quelque part. Il a jeté sa force dans un canal que je n'ai pas compris, et que je n'ai pas pu suivre. Tout ce que je sais, c'est qu'il a gagné, et vous aussi. Qu'est-ce que c'était ?
Un serviteur du roi, biaisais-je. Je ne voulais pas refuser complètement de répondre, et cette révélation me semblait relativement inoffensive, puisqu'il l'avait déjà plus qu'à moitié deviné.
C'est ce qu'on appelle l'art que vous avez combattu, n'est-ce pas ?
Son regard ne quittait pas le mien. Comme je me taisais, il reprit.
Nombreux parmi nous souhaiteraient savoir comment vous avez fait. Dans le passé, des artiseurs nous ont pourchassés comme de la vermine. Pas un membre du lignage ne peut prétendre que sa famille n'ait pas eu à souffrir de leurs exactions. Aujourd'hui, la même situation se représente. S'il existe un moyen d'employer les talents du lignage contre ceux qui manient l'art des loin voyants, cette connaissance serait inestimable pour nous.
Fragon quitta sans bruit sa place et alla se placer derrière le fauteuil de Rolf, les mains crochées au dossier, ses yeux perçants fixés sur moi. Ma réponse avait manifestement une grande importance pour eux. Je ne peux pas vous l'apprendre, dis-je avec franchise. Rolf soutint mon regard, le visage empreint du refus de me croire.
Par deux fois, ce soir, j'ai proposé de vous enseigner tout ce que je sais du lignage, d'ouvrir pour vous toutes les portes que votre seule ignorance maintenait fermées. Vous avez décliné mon offre, mais, par Eda, je vous l'ai faite, et sans contrainte. Et maintenant que je vous demande ce petit renseignement, ce savoir qui pourrait sauver la vie de tant des nôtres, vous dites ne pas pouvoir me le donner.
Je jetai un bref coup d'œil à Hilda. Elle avait repris son regard noir et brillant. Rolf ne se rendait sans doute pas compte qu'il avait la même posture menaçante que son ours. Je mesurai la distance qui me séparait de la porte, tandis qu'Œil de Nuit, déjà debout, était prêt à fuir. Derrière Rolf, Fragon inclina la tête de côté et me dévisagea. Au-dessus de nous, le faucon se tourna pour nous observer. Par un effort de volonté, je détendis mes muscles afin de me donner une apparence beaucoup plus calme que je ne l'étais en réalité. C'était Burik qui m'avait indiqué cette tactique lorsqu'on se trouve face à un animal inquiet. Je vous dis la vérité, fis-je d'un ton circonspect. Je ne puis vous apprendre ce que je ne comprends qu'imparfaitement. Je me retins d'ajouter que dans mes veines coulait le sang loin voyant qu'il méprisait tant. J'étais à présent sûr de ce que je soupçonnais seulement jusque-là. Le vif ne pouvait servir contre un artiseur que si un canal d'art avait été créé entre les protagonistes. Même si j'avais été capable de décrire ce qu'Œil de Nuit et moi avions fait, personne n'eût été à même de nous imiter. Pour combattre l'art par le vif, il fallait posséder à la fois l'art et le vif. Je soutins le regard de Rolf le Noir, assuré de lui avoir dit la vérité. Lentement, ses épaules se décontractèrent. Hilda se remit à quatre pattes et suivit la traînée de miel que le pot avait laissée en roulant par terre. « Peut-être, » fit-il avec un entêtement tranquille, « si vous vous installiez chez nous pour apprendre ce que j'ai à vous enseigner, peut-être comprendriez-vous un peu mieux ce phénomène. Vous pourriez alors me l'expliquer. Qu'en pensez-vous ? » Je conservais un ton uni. « Vous avez assisté à l'attaque d'un serviteur du roi contre moi hier soir. » Croyez-vous qu'ils me laisseront sans réagir séjourner chez vous et en apprendre davantage sur la façon de les combattre ?
Non. Je dois aller les défier dans leur propre tanière avant qu'ils viennent me chercher. C'est ma seule chance. J'hésitais, puis je ne puis vous enseigner ma méthode. Mais faites-moi confiance. Elle sera employée contre les ennemis du lignage. C'était là un raisonnement acceptable pour lui. Il huma l'air à plusieurs reprises avec une expression méditative. Mal à l'aise, je me demandais si j'avais acquis autant de tics de loup que lui d'ours et Fragon de faucon. « Voulez-vous au moins passer la nuit chez nous ? » demanda-t-il brusquement.
« Nous nous déplaçons plus vite de nuit, » répondis-je d'un ton de regret. « C'est plus pratique pour nous deux. » Il acquiesça de la tête.
« Eh bien, je vous souhaite bonne chance et mes vœux accompagnent votre entreprise. » Si vous le désirez, vous pouvez demeurer ici à l'abri jusqu'au lever de la lune.
Je consultai Œil de Nuit et nous acceptâmes de grand cœur. J'examinai l'entaille du loup. Elle n'était pas plus belle à voir que je ne m'y attendais. J'y appliquai un peu du baume de Burik, après quoi nous nous étendîmes à l'ombre des arbres et passâmes l'après-midi à dormir. Je savourais de pouvoir me détendre complètement, en sachant que d'autres montaient la garde, et nous jouîmes d'un meilleur sommeil que jamais depuis le début de notre périple. À mon réveil,
je découvris que Rolf avait sorti à notre intention du poisson, du miel et du pain. Je ne vis le faucon nulle part. Sans doute avait-il regagné son nid pour la nuit. Fragon se tenait dans les ombres, près de la chaumière, et nous observait d'un œil ensommeillé.
« Allez, avec prudence et légèreté, » nous conseilla Rolf, après que nous l'eûmes remercié.
Nous venions d'empacter les vivres dont il nous avait fait don.
« Marchez dans les chemins qu'Eda vous ouvre. »
Il se tut avec l'air d'attendre une réponse. Sans doute, s'agissait-il d'une coutume que j'ignorais. Aussi dis-je simplement. « Bonne chance. » Et il hocha la tête.
« Vous reviendrez, vous savez, » fit-il.
Je secouai lentement la tête. « Ça m'étonnerait, mais je vous remercie de ce que vous m'avez donné. »
« Non, je sais que vous reviendrez. » Il ne s'agit pas que vous soyez curieux ou non de ce que j'ai à vous apprendre. Vous en aurez besoin. Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Les autres s'imaginent avoir un droit sur toutes les bêtes, le droit de les chasser, de les manger, de les asservir et de gouverner leur vie. Vous, vous savez que vous n'avez aucun droit à cette autorité. Le cheval qui vous porte le fait de son plein gré, comme le loup qui chasse à vos côtés. Vous avez un sentiment plus profond que les autres hommes de votre présence dans le monde, et vous êtes convaincu d'avoir le droit, non de vous en faire obéir, mais d'en faire partie. Prédateur ou proie, il n'y a pas de honte à être l'un ou l'autre. Le temps passant, des questions pressantes vous viendront. Que doit-on faire quand son compagnon souhaite s'intégrer à une meute de vrais loups? Faites-moi confiance. « Ce temps viendra. Que doit-il faire si vous vous mariez et avez un enfant? Quand l'heure arrive où l'un des deux meurt, comme il se doit, comment l'autre fait-il face à ce qui reste? Et continue-t-il seul? Avec le temps, vous aspirerez à fréquenter des êtres de votre espèce. Il vous faudra savoir comment les sentir et comment les trouver. À ces questions, les réponses existent, les réponses du lignage. » Que je ne puis vous révéler en un jour, que vous ne comprendrez pas en une semaine, elles vous sont nécessaires, et vous reviendrez les chercher.
Je baissai les yeux sur la terre du sentier forestier. Je n'étais plus du tout sûr de ne plus jamais revoir Rolf le Noir. Dans les ombres, doucement, mais d'une voix claire, Fragon déclara.
« Je crois en la justesse de votre entreprise. Je vous souhaite de réussir, et je vous aiderai si je le pouvais. »
Son regard se posa brusquement sur Rolf, comme s'ils avaient déjà discuté du sujet sans trouver de terrain d'entente.
« En cas d'urgence, lancez un appel comme vous le faites avec Œil de Nuit, en demandant que tous ceux du lignage qui vous entendent avertissent Fragon et Grésil de Corvecol. Les plus proches viendront peut-être à votre aide, mais même dans le cas contraire, ils me transmettront le message, et je ferai ce que je pourrai. »
Rolf souffla brusquement.
« Nous ferons ce que nous pourrons, » reprit-il. « Mais il serait plus sage que vous restiez chez nous pour apprendre à mieux vous protéger. »
J'acquiesçai tout en résolvant en moi-même de n'entraîner aucun d'entre eux dans ma vengeance contre Royal. Quand je levai les yeux, je vis le sourire mi-figue mi-raisin de Rolf. Il haussa les épaules.
« Allez donc, si vous y tenez, mais soyez prudents tous les deux. Avant le coucher de la lune, vous quitterez Serre et entrerez en Bauge. Si vous croyez que le roi nous tient dans sa poigne ici, attendez donc d'arriver là où les gens sont convaincus que c'est son droit. »
Je hochai la tête, lugubre. Puis, Œil de Nuit et moi reprîmes notre route.